Vous êtes sur RTL. Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec François, qui a écouté sans doute Brigitte Macron ce matin. Bonjour François.
Bonjour Pascal. Ça pose évidemment le rôle et la place de l'épouse d'un président dans ses choix pour les 5 ans à venir.
C'est de cela dont on va parler. Est-ce que vous êtes sensible à la prise de parole de l'épouse du président de la République? Le rappel des titres avec Amandine.
Et elle a une d'abord cette bonne nouvelle pour des millions de Français. 8 Français sur 10, tous ceux qui détiennent un livret A. Le taux du livret A devrait passer à 1% au 1er février. C'est en tout cas ce que propose le gouverneur de la Banque de France. On apprend le chiffre à l'instant. Le ministre de l'Économie tranchera dans la journée. Et puis l'autre grand titre cette mi-journée, c'est la suite du feuilleton Djokovic. Après avoir annulé pour une deuxième fois son visa, les autorités australiennes ont l'intention d'ordonner son retour en rétention dès demain matin. C'est la justice australienne qui tranchera. Audience demain matin donc à 8h à Melbourne. Il sera 22h ici en France. La météo avec vous Valérie Quintin. Et une bonne nouvelle pour ce week-end, on n'aura pas plus froid, plus froid.
Voilà, mais on n'aura pas plus chaud non plus. Ce qui veut dire qu'on va continuer de grelotter quand même avec des températures négatives partout demain matin. Sauf, encore c'est sur la pointe bretonne, on va partir de moins 8 degrés à Mont-de-Marsan pour atteindre 4 degrés à Nice. Avec toujours autant de brouillard, des brouillards givrants la plupart du temps. Et puis un temps ensoleillé ensuite pratiquement toute la journée, presque partout. Excepté entre le Cotentin, le Finistère et la Loire-Atlantique. On pourra avoir un peu plus de nuages et quelques gouttes de pluie. Les températures demain après-midi seront parfaitement stables, de 3 à 16 degrés. Quant à dimanche, la moitié nord va perdre un petit peu de son soleil. On ne va pas avoir de dégradation à proprement dit, mais un ciel bien bas, bien brumeux, des brouillards qui vont tenir toute la journée. Au sud, toujours un temps ensoleillé et des températures donc stables. Moins 1 degré de moyenne pour la moitié nord au réveil, moins 2 pour la moitié sud, 5 à 9 dans la journée.
Bon, c'est pas mal en se couvrant. Merci.
Au moins il fait beau.
Merci Valérie, merci Amandine. Amandine qu'on retrouve ce soir à 18h.
19h15, ils refont la France, on décrypte, décortique l'actualité avec la presse étrangère.
Et à 18h évidemment, c'est Julien Cellier. Merci à Ludovic Van de Kerkhoff qui a assuré toute la semaine cette rédaction en chef du 12h30. Il est 13h03.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Bon, la prise de parole de Brigitte Macron et avant elle des femmes de président de la République. Est-ce que ça vous agace? Est-ce que vous trouvez que c'est leur rôle? Est-ce que vous trouvez que elles ont est-ce que ça sert leur mari parfois? Je pense à Bernadette Chirac. Autant de questions qu'on peut se poser parce qu'elles ont un statut particulier. D'ailleurs, elles n'en ont pas en France. Sinon, un statut médiatique. François.
Merci, bonjour Pascal et meilleurs vœux.
Meilleurs vœux à vous.
C'est effectivement, elles n'ont pas de rôle, on parle souvent de première dame, mais malheureusement, elles n'ont pas un rôle très, très précis, qu'on devrait peut-être pouvoir un jour se poser la question. Maintenant, quand on regarde les épouses de présidents de la Ve République, elles ont relativement toutes souvent très mal vécu cette position.
Sauf Bernadette Chirac, qui adorait être dans les palais présidentiels.
Oui, mais Bernadette Chirac, on a vu que sur le deuxième quinquennat, elle était retournée en Corrèze pour prendre un mandat dans son conseil général, se réinvestir dans la ruralité. Effectivement, c'était une façon d'exister dans un mandat présidentiel qui est compliqué. Alors, pour en revenir au propos de Madame Macron ce matin, je pense que c'est sans faire de jugement ou quoi que ce soit, c'est tout à son honneur. Je dirais, elle le dit d'ailleurs dans l'interview, le choix de la candidature à la présidence de la République est un choix personnel. C'est un engagement total pendant 5 ans, quel que soit le parti qui prend le pouvoir. C'est un choix complet. Elle a d'ailleurs des propos qui sont terribles dans son interview quand elle dit à un moment, j'ai le sentiment de nuire aux gens que j'aime parce qu'elle ne peut pas dire qui elle est, où elle ne peut pas aller chercher ses petits-enfants à la sortie d'une école,
oui, mais
ça laisse quand même planer quelque chose de terrible pour quelqu'un qui veut vivre pendant 5 ans aux côtés d'un homme, et que ça soit un homme qui s'engagera aux côtés d'une femme qui deviendrait présidente, qui va vivre pendant 5 ans un effacement total pour son conjoint, qui lui va se dévouer à un pays complet, et qui est quand même la sixième puissance du monde. Quoi. Je veux dire, c'est pas neutre. Donc je pense que c'est à son honneur de ne pas s'immiscer dans ce choix-là, de ne pas, et de rester respecter le choix du candidat qu'il va faire.
si vous me permettez, j'ai trouvé que c'était une forme de posture de dire je nuis aux personnes que j'aime. Je ne parle pas de, d'aller chercher ses enfants à la sortie de l'école. La vérité, c'est que les gens qui se disent amis avec Brigitte Macron sont plutôt fiers. Et souvent, ils en parlent. Et souvent, ils le disent. Donc, ils ne vivent pas cela comme être une infamie. Bien au contraire. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait... Ça m'a étonné d'ailleurs...
J'ai pas ressenti la famille, Pascal, parce que quelque part, on peut être fier de quelqu'un de célèbre que l'on connaît, mais pour la personne qui vit cette célébrité, quand on connaît la violence aujourd'hui de notre société, des réseaux sociaux, mais imaginez que demain, je m'annonce moi grand ami du président Macron ou de son épouse, je pense que je serai le premier à subir sur les réseaux sociaux des insultes, des attaques, parce qu'on me dirait mais que je suis invendu, que je
suis... C'est vrai, j'entends cet argument, et je pense, pour tout vous dire, à Christian Clavier, qui avait été donné comme très ami du président de la République, Nicolas Sarkozy, et qui avait été quasiment obligé de quitter la France à cause de ça. Donc j'entends cet argument. Vous avez raison, François, c'est vous qui avez raison. En tout cas, est-ce que ça, pour vous, vous êtes sensible à la parole d'une femme, d'un président? Est-ce que ça peut, par exemple, faire évoluer votre avis?
Ah ben ça, mais enfin, je pense que toutes les quand on a une vie sociale engagée, qu'elle soit municipale, qu'elle soit quand on a une vie publique engagée, que l'on vit et que l'on partage sa vie avec quelqu'un, c'est important de partager. Je pense que c'est une aventure qui se partage et qui se partage à deux. Après,
c'est pas vraiment ma question. Ma question,
mais non,
c'est
mais quand
que ça.
Après, je pense qu'elle est très claire dans son interview. Mmh. Elle le dit, il n'y a que le présent qui compte, et elle n'intervient pas sur les choix. Il est normal qu'il se parle.
Non, mais ma question, c'était, est-ce que vous, ça vous fait changer d'avis ou pas? Est-ce que ça vous influence ou pas? Est-ce que vous voyez Emmanuel Macron d'une manière différente?
Ça n'influence pas mon choix. D'accord. Ça n'influence pas mon choix. Je trouve ses propos, par contre, éminemment respectables. C'est pas ça qui me fera voter ou ne pas voter pour Emmanuel Macron. Je pense que quand on est suffisamment à l'écoute, c'est pas ça qui va faire. Au contraire, ce serait ne pas respecter son choix que d'être influencé par ses propos. La politique, elle est ce qu'elle est, et les choix que fera le programme des candidats pour les 5 ans à venir sont leur programme. On vote pour un programme, on vote aussi pour un homme, certes, on est dans la 5e République en France, mais on vote pour un programme, et on doit se tenir à ça. Je pense que voilà, moi j'ai pas été particulièrement influencé. J'ai apprécié les propos, mais je n'ai pas été influencé par ses propos de ce matin.
Eh bien écoutez, merci beaucoup François pour cette première intervention. Je salue Monsieur Boubouk. J'ai une question assez simple à vous poser. Est-ce que vous êtes pascalien?
Alors, pascalien, aucun rapport avec vous?
Ah non, pascalien, puisque Brigitte Macron a dit « je suis pascalien ».
Mais je pense être pascalien aussi. Oui.
C'est-à-dire qu'elle dit « je ne me projette pas dans l'avenir, je ne vis que dans le présent ».
Ah bah c'est exactement ma vie, je suis pascalien, Pascal.
Et ben voilà, mais vous savez qu'il y a des gens qui handicapent le présent par des questions qu'ils se posent sur l'avenir. Or, l'avenir n'existe pas, par définition.
C'est philosophique, vous m'avez perdu là, Pascal.
Non, c'est pas du tout philosophique, mais souvent on a peur de quelque chose, et puis on ne vit pas le moment présent comme on devrait le vivre en imaginant le pire arrivera. Donc c'est ce qu'elle veut dire, Brigitte Macron, d'accord, quand elle dit « je suis pascalien ».
Mais écoutez, je pense être aussi pour le coup, Pascal. Voilà.
N'oubliez jamais une chose, la menace est plus forte que l'exécution. La menace est plus forte que l'exécution.
Je vais y réfléchir pendant la pub. Là.
Mais non, c'est assez simple. Donc pascalien, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé ce côté pascalien. Pascal le vrai, évidemment. Pascal le philosophe, essayiste, contemporain de Molière, dont on parlera tout à l'heure au 17e siècle.
Je serai très à l'aise.
Cher ami, il est 13h09. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Souhaitez-vous qu'Emmanuel Macron se représente en 2022? Brigitte Macron se voit-elle 5 années de plus à l'Élysée? Elle était l'invitée d'Alba Ventura ce matin sur RTL.
Alors, je n'ai pas cette capacité à me projeter. Je suis très pascalienne, rien n'existe que le présent. J'apprendrai, je lui ai dit, cette décision, tu me la donneras en même temps que tu la donneras aux autres.
Mais il vous demandera votre avis, quand même. Hein.
Je lui ai demandé de ne pas me le demander.
Que pensez-vous de ces propos? Rejoignez-vous Brigitte Macron? Elle est aussi revenue sur la polémique et la phrase du chef de l'État, j'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés.
Emmanuel parle très franchement, parle très cash, et nuit et jour, il s'occupe de la crise sanitaire. Pas que cela, mais il est tout le temps dans la crise sanitaire. Donc, il sait qu'il n'y a pas d'autre issue pour l'instant. Il n'existe rien d'autre concrètement que le vaccin.
Vous pouvez réagir dès maintenant. Philippe, Victor et Florence vous attendent au standard 3210, 3210.
Et elle est allée effectivement sur un chapitre politique. Hein. Elle n'est pas allée que sur les pièces jaunes, bien sûr, dont elle assure la mission. Mais elle a dit des choses à Alba Ventura et peut-être cela a-t-il surpris de dire autant de choses. Véronique, nous sommes ensemble pendant quelques minutes. Bonjour Véronique, vous habitez Le Mans.
Oui, bonjour Pascal.
Vous avez écouté Brigitte Macron, oui. Quel sentiment avez-vous eu?
D'emblée, quand elle a dit qu'elle n'était pas au courant, je n'ai pas cru. Parce que quand on est l'épouse d'un homme, ça va impacter sa vie, forcément, sa décision. Donc elle est quand même partie prenante dans la décision. Ou alors c'est un couple qui ne se concerte pas et chacun fait ce qu'il veut. Enfin, ça me semble. Et là, à un moment donné, où effectivement j'ai un peu tilté, c'est quand elle a dit... Je lui ai demandé de ne pas me poser la question. Alors, au début, effectivement, en butade, en disant bon, écoute, prends ta décision, tu ne m'en parles pas. Mais quand on arrive si proche, alors, ce n'est pas du tout pour mettre en avant leur différence d'âge, etc. Parce que j'ai vécu avec un homme plus âgé, donc je serais mal placée pour juger. Mais c'est un peu le genre de réflexion que je ferais à un de mes enfants. Vous voyez, un de mes fils aurait une décision importante à prendre. Je lui dirais, écoute, prends ta décision, ça va impacter ta vie, pas la mienne, entre guillemets, puisqu'il est parti de la maison et qu'il fait sa vie. Donc ça m'a un peu surpris quand j'ai entendu ça. Je dis, mais pourquoi il dit ça? En tant qu'épouse, il est évident qu'elle est concernée. Donc ça m'a un peu surpris.
Mais moi, je l'ai interprété, alors évidemment, c'est tout à fait personnel. La façon dont elle l'a dit, comme elle l'a dit, les mots qu'elle a employés, moi j'y ai vu en creux. Ne me demande pas ne me pose pas la question parce que au fond j'ai pas très envie de rester à l'Élysée et j'arrêterai bien là l'expérience. Voilà comment je l'ai interprété. Mais par définition, c'est improuvable ce que je vous dis là.
C'est un
ensemble de choses. C'est la manière dont elle le dit, comme elle le dit et les mots qu'elle emploie.
Alors moi, à sa place, j'aurais pas. Bon, je suis pas à sa place, hein, et c'est pas toujours facile la place qu'elle a. Mais moi, j'aurais dit, ce n'est pas à moi de répondre. C'est lui qui voudra sa réponse, parce que effectivement, je pense qu'ils se concertent. Ça me semble évident en tant que couple. Mais par contre, effectivement, c'est pas à elle d'en parler. C'est à lui de nous dire si effectivement il se présentera ou pas. Et c'est vrai que la manière dont elle l'a présenté, moi, ça m'a un peu...
Dire autrement. Je parle pas de cette phrase-là. Cette phrase, elle aurait pu ne pas la dire, bien sûr. Mais à partir du moment où elle ne peut pas dire à Alba Ventura, il m'a dit qu'il était candidat, figurez-vous.
Tout à fait.
Ça, c'est pas possible.
C'est pas elle de
Donc,
dire.
Donc, tout le monde, en fait, joue. Forcément, le journaliste fin... Mais je suis un peu d'accord avec vous. C'est-à-dire que tout le monde feint de croire qu'elle ne sait pas. La vérité, c'est qu'elle sait.
Tout à fait.
Elle sait.
Ça me paraît évident. Enfin, j'espère pour elle.
Mais ça fait partie du jeu médiatique, du jeu, mais aussi, comment dire, le jeu qui se passe quand on est dans un dîner, parfois, enfin... de penser que l'autre dit quelque chose qui est juste alors qu'on sait qu'il ne dit pas forcément la vérité. Ça fait partie des us et coutumes de la vie sociale.
Tout à fait, c'est un jeu de dupes, mais que tout le monde joue.
Bah forcément, dans la vie sociale, vous ne dites pas en permanence ce que vous pensez. Ça serait insupportable pour tout le monde.
Oui, on est obligé de temps en temps mettre des filtres.
Ça s'appelle aussi parfois être bien élevé, tout simplement.
Ça va
de la personne qui entre devant vous et qui n'est pas qui a un pull qui est pas joli, vous allez pas lui dire.
Il est moche,
Bon, on dirait une scène du Misanthrope. On parlera de Molière tout à l'heure, mais il y a comme ça une scène entre Alceste et Philinte où Alceste ou Philinte dit mais vous ne diriez pas à Bidule qu'elle est vieille et qu'elle dit que des bêtises. Alors Alceste dit oui, si, je dirais ça, je répondrais ça. Mais alors la vie devient insupportable.
Oui. Si on dit tous ce qu'on pense, ça devient vivable pour tout le monde, c'est clair.
Je suis d'accord avec vous. Bon, Véronique, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, Véronique?
Ce week-end, je suis en train de bricoler. La dernière fois que vous m'avez appelé, j'étais en train de terrasser. Enfin, vous m'avez appelé,
je vous ai dit au téléphone, j'étais en train de terrasser. Bien sûr, vous étiez en train de terrasser, je me souviens de cette affaire. Ça, c'est effectivement...
Et moi, j'ai pas eu mes chocolats parce qu'ils m'ont pas rappelé.
Les chocolats Jeff de Bruges?
Eh ben ouais, ils m'ont oublié.
Mais attends, Damien, alors vous savez qui les a mangés? C'est Damien Béchiot. Parfois, il mange les... Ça dépend de qui, sérieusement. Les chocolats, ça dépend de qui, parce que moi je veux le responsable dans le studio. Ça dépend de qui les chocolats.
Y a pas.
Je vais me renseigner, je ne sais pas du tout.
Non, moi je balance. Je balance, je veux savoir qui n'a pas envoyé les chocolats à Véronique. Parce qu'on devait vous les envoyer.
Oui, on m'a dit le standard va vous rappeler. Non, mais sincèrement, habituellement, il y a toujours. J'en ai déjà reçu. Sincèrement, en général, ils font. Les vacances, il y a à rater.
J'irai les acheter moi-même dans une chocolaterie.
Et on rajoutera une montre pour Véronique.
Exactement.
Voilà, on va se rattraper.
À moins que ce soit monsieur Boubouk, c'est pas vous qui avez.
Ah voilà, c'est
celui qui
les a mangés, n'ayant pas.
Il me semble que c'est de ma faute.
Depuis qu'il a appris qu'il était pascalien comme Monsieur Jourdain a appris qu'il faisait de la prose, on ne le tient plus. S'il sort dans la rue et il va dire je suis pascalien.
J'ai le responsable.
Il a passé son week-end tout seul.
On a un responsable, Véronique. Véronique, qui est responsable? Pourquoi Véronique n'a pas les chocolats?
Je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends ça.
Ah bah oui, c'est la première fois, donc il y a... Bon, écoutez Véronique, on vous les envoie.
On va trouver une solution.
C'est le grand responsable qu'on a. Attention, là, on a là, quasiment le plus haut niveau de l'étage.
Non, je disais pour rire, ils sont très agréables, ils sont très gentils, et en général, les choses sont faites.
Je suis d'accord avec vous. On salue d'ailleurs Florence, Philippe, Victor, qui sont au standard, qui accueillent les auditeurs. On leur souhaite vraiment une très belle année. Effectivement, la part de succès de cette émission, ils en ont évidemment une partie, parce qu'ils accueillent, et puis parfois, ils nous recommandent un ou deux auditeurs qui sont plus à même, peut-être, de répondre aux questions qu'on a ce jour-là mises en avant. Merci Véronique.
Merci Pascal, bonne journée à vous.
Il est 13h19, il fait froid aujourd'hui. Il fait froid, on va passer un bon
week-end.
Vous aimez bien ces week-ends d'hiver où il fait froid
pas
et
du
beau.
Tout.
Ah bon ?
Pas du tout, je suis plutôt été.
Ah oui, mais c'est joli quand même.
Oui, c'est joli, mais c'est froid.
Et puis on saura tout à l'heure ce que M. Boubouk a prévu ce week-end.
Ah oui, un beau week-end encore.
On l'espère, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
On va parler d'histoire tout à l'heure.
Oui, connaît-on suffisamment l'histoire de France? Les jeunes ont-ils de plus en plus de lacunes? Comment mieux transmettre notre histoire? Eh bien, ça tombe bien. L'historien Dimitri Casali sera avec nous dans quelques minutes. Il nous présentera son opéra rock, Histo-Rock, pour faire connaître notre histoire en musique aux jeunes générations comme Monsieur Boubouk. Tiens, par exemple, la bataille de Marignan. Sinon, la vie de Louis XIV en chanson.
Car la devise de Louis XIV, c'est « Mais plus réussir pas, à moi seul le pouvoir. »
Parlons tous ensemble de l'histoire de France avec Dimitri Casali dans quelques minutes.
Question difficile pour Monsieur Boubouk, quel est le lien familial entre Louis XVI, Louis XVIII et Charles X?
Écoutez, il me semble, Pascal, qu'ils sont tous... Pascal, ils sont tous père et fils. Non.
Non, mais ça, c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile. Parce que Louis XVI, c'est 1789, et Charles X, c'est 30 ans ou 35 ans plus tard, quand même. Donc,
c'était quoi, du coup?
Ils sont frères. Ils sont trois frères.
J'étais loin.
Les inconnus.
C'est les trois. Oui, c'est quoi? C'est les inconnus. Bon, Théo est avec nous. Bonjour, Théo.
Bonjour Pascal, vous allez bien ?
Ça va très bien. On parle de Brigitte Macron. On est toujours, c'est toujours délicat de parler de ça parce qu'il y a un côté people, disons-le. Brigitte Macron, elle a servi la campagne de son mari à 5 ans. Elle a fait la une des couvertures de Paris Match, de Closer, de Voici, etc. Certains ont dit que ça avait donné une image positive d'Emmanuel Macron, que ça l'avait servi. Et comme par hasard, à quelques jours de la campagne présidentielle de 2022, on la voit. Elle est un peu présente. C'est vrai qu'elle des pièces jaunes, mais elle est présente. Donc, est-ce qu'elle a un rôle politique? Est-ce qu'elle a un rôle people? C'est ça dont on parle depuis quelques minutes. Quel est votre sentiment?
Écoutez, moi, je pense que elle a aucun rôle politique, ça c'est sûr. J'ai écouté avant tout à l'heure des gens. Enfin, pour moi, elle n'a pas à dire à la radio et à des journalistes les intentions présidentielles de son mari. C'est pas la porte-parole du gouvernement ni rien. Donc, même si je suis pas en accord avec ce qu'elle a dit sur d'autres sujets, pour moi, elle a très bien réagi en disant que voilà, quoi, c'est pas elle de dire. Et puis voilà. Après, elle a un rôle people. C'est vrai que ça peut être utilisé, évidemment. Mais bon, c'est pas, pour moi, elle a aucun rôle politique, elle a rien à dire sur, sur les intentions du gouvernement ou du président. Les Français l'ont pas élu elle, hein, ils ont élu Emmanuel Macron. Et pour moi, sa prestation était, ouais, c'était digne d'une, d'une première dame. Et puis voilà.
Alors quand on fait les, la liste des premières dames, Yvonne de Gaulle était assez peu présente, disons-le. Après, vous avez eu Madame Pompidou.
Ah, c'est pas la même époque aussi, hein.
Vous avez raison. Vous avez raison. Elle apparaissait vraiment comme une femme entre guillemets soumise à son mari, même si dans la réalité, c'était pas tout à fait ça. Elle avait beaucoup, pour le coup, d'influence sans doute, Yvonne de Gaulle. Après, vous avez eu Madame Pompidou, qui a détesté l'Élysée et en plus son mari est mort dans le mandat, donc ça a pas facilité les choses. Anémone Giscard d'Estaing, qui était assez effacée, disons-le, même si elle était intervenue un soir. Lors des vœux présidentiels. Daniel Mitterrand, qui était une compagne particulière parce qu'on savait que le couple n'était plus ensemble. Jacques Chirac et Bernadette Chirac. Finalement, Bernadette Chirac a été peut-être la plus présente parmi toutes ces femmes que je viens de citer, Théo.
Mm-hmm. Bah après, ouais, mais c'est vrai que bon, pour moi, après, bon, j'ai à peine 22 ans, j'ai pas connu d'autres présidents, hein, j'ai à peine le souvenir de Chirac, moi. C'est vrai que quand on regarde avec du recul, c'est vraiment un couple assez... iconique, le couple Bernadette et Jacques Chirac. Mais comme je vous ai dit avant, hein, on n'est pas dans la même époque. Aujourd'hui, il y a tout qui est surmédiatisé. On est vraiment dans, voilà, quoi, chaque parole est rapportée, etc. Enfin, c'est pas, on ne peut pas vraiment comparer, même si... puis voilà, pour moi, Brigitte Macron n'a pas tellement été vraiment très mise en avant durant le quinquennat, hein, pour moi. Elle était, pour moi, franchement, hein, j'irai pas voter pour Emmanuel Macron en 2022. Hein, je milite pas pour lui. Hein, j'aime pas trop non plus comme président. Mais en toute objectivité, je pense que Brigitte Macron a accompli quand même bien son rôle. Hein, elle a pas.
Elle a une image positive. Voilà, je pense qu'effectivement, elle a une image positive et sans doute adoucit-elle les angles d'un mari qui est parfois, elle a dit cash ce matin, mais qui est perçu comme plus cassant, forcément qu'elle. Merci Théo. Ludovic sera peut-être le dernier auditeur sur Brigitte Macron. Il est chef d'entreprise et il a écouté cet exercice que vous qualifiez de communication.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Pour moi, c'est un superbe exercice de communication où on explique le président qui se sacrifie pour son quinquennat. C'est-à-dire qu'elle nous dit, on fait du mal à nos amis, donc on sacrifie nos amis. Je lui ai demandé de ne pas me le demander, donc il sacrifie son couple. Donc en fait, c'est un sacrifice sur toute la ligne. Et s'il revient 5 ans, c'est pour se sacrifier encore pour les Français. Donc c'est un superbe exercice. Alors moi, c'est une analyse, parce que moi, personnellement, je vote Macron, donc ça ne m'empêche pas d'avoir du recul. Hein. Mais pour moi, c'est un exercice où on envoie la femme du président dire « il s'est sacrifié pour vous et il va continuer ».
Non, mais votre analyse, elle est très argumentée en tout cas, et peut-être y a-t-il une part de vérité dans ce que vous dites. Restez quelques secondes avec nous, on va marquer une pause. C'est vendredi aujourd'hui, thanks God, it's Friday, comme vous le savez. Merci, c'est vendredi. Dieu merci, c'est vendredi.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. 13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Que se passe-t-il dans le monde merveilleux de la classe politique ? Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est au cœur de toutes les discussions. La fin d'une histoire d'amour avec Éric Zemmour hier soir sur RTL.
J'ai accordé tout le crédit du monde à Jean-Michel Blanquer. Vous retrouverez, si ça vous intéresse, quand j'étais journaliste, j'ai fait des papiers à la gloire de Jean-Michel Blanquer. Oui, j'ai changé d'avis, mais je vais vous dire pourquoi. C'est pas par esprit partisan, c'est parce que Jean-Michel Blanquer est la grande déception de ma vie.
Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, partage la même déception sur Jean-Michel Blanquer, mais il le dit à sa façon.
Bah non, je pense qu'un crétin pareil est utile. Hein. Bon, faut laisser leur chance aux bons à rien.
Et en attendant, Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, s'est vantée de s'être levée tôt.
Il est 5h et nous partons dans le Doubs. C'est ça la vraie vie d'une candidate qui ne vole pas dans les falcons de la République.
Alors cette présidentielle vous plaît-elle plus que les autres?
Et je crois qu'elle avait enlevé, il est 5h, je crois qu'elle avait enlevé
cette. Mais les réseaux sociaux gardent tout, vous savez.
C'est ça qui est absolument terrible. On termine avec Ludovic. Ah oui, il est 5h. C'est trop magnifique.
S'éveille Paris.
Formidable. s'éveille. Jacques Lanzmann avait écrit les paroles. Merveilleux. Ludovic, donc pour terminer, vous dites c'est un exercice de com, bon vous n'êtes pas dupe. Je vais vous dire, je pense que les gens aujourd'hui décodent tout et ils décodent aussi cela. Mais il n'empêche, il y a quand même un intérêt, on a envie de savoir ce qu'elle pense, on a envie de savoir comment elle parle, on a envie, il y a un intérêt qu'on a tous, c'est l'intérêt un peu effectivement de percer le mystère des gens, des personnalités aussi, des gens célèbres, de savoir comment ils vivent, comment fonctionne le couple, c'est humain.
Oui, on a envie d'être dans la confidence des gens, people. C'est pour ça que les gens lisent le people, ils ont l'impression d'être des amis de toujours, ou avec Facebook, tout ça, on a l'impression d'être un intime d'eux. Et puis là, on fait un exercice où on dit, mais je vous dis quelque chose à l'oreille, je vais vous faire une confidence sur le coin de l'oreiller, entre guillemets. Mais pour moi, c'est ça, c'est les gens, ça les rassure en disant, bah, elle est proche de nous. Alors c'est vrai, il y a certainement de la vérité dans ce qui est dit. Quand j'entends Brigitte Macron, j'ai l'impression qu'elle parle quand même avec son cœur. Et je peux peut-être t'avoir, je sais pas. Donc pour moi, il y a une part de vrai dans ce qui est dit, mais je pense qu'en filigrane, on montre quand même ce qui se passe. Et pour avoir fait de la politique, c'est vrai, faire de la politique, c'est une forme de sacrifice. Donc je ne retire pas ça.
Moi, j'aime pas le mot sacrifice, parce que tout est sacrifice. Un footballeur de haut niveau, c'est sacrifice. Évidemment qu'il faut faire des efforts pour arriver parfois au plus haut niveau. Donc le mot sacrifice, je le trouve un peu trop fort.
Oui, mais...
C'est leur vie, c'est sa vie. Tu l'as choisi, Dandin, comme ça, c'est chez Molière. Tu l'as choisi, Dandin. Voilà, ben non, mais il lui dit ça dans la pièce.
Bien sûr, mais quand on passe des journées complètes, alors je sais pas quelles sont ses heures, mais ça doit être des très 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 grosses journées. C'est sûr qu'on peut faire autre chose, on peut s'occuper des enfants, aller chercher les enfants à la crèche, aller avec les enfants au sport, à la musique. C'est sûr que c'est des choses, je pense, qu'on peut plus faire dans une vie de président.
Ah oui, donc, ça, c'est sûr que c'est plus difficile.
Les gens ont tendance à l'oublier dans les médias, enfin pas les médias, mais...
Enfin, vous remarquerez que tous ont voulu se représenter toujours et tout le temps, que personne ne part de lui-même et que le seul qui ne s'est pas représenté, c'est François Hollande parce qu'il ne pouvait pas. Et puis il y a une exception, c'est vrai, c'est Charles de Gaulle qui est parti de lui-même parce qu'il avait été désavoué.
Il ne pouvait pas ou il ne voulait pas? Pour moi, quand on...
Ah non,
quand
François Hollande, il ne pouvait pas se représenter.
Pour moi, dans les postes de pouvoir, c'est l'envie qui est plus forte que le pouvoir le faire. Quelqu'un qui veut le faire, l'envie de le faire, c'est comme une passion, la politique. Il y a des gens qui font du sport, ils veulent gagner les championnats, et même s'ils font beaucoup de mal, ils iront jusqu'au bout, même s'ils n'y arriveront jamais. Et je pense qu'un président, c'est ça, il en a très envie, c'est envie de faire. Et je pense que Hollande, s'il n'y est pas allé, c'est parce qu'il ne voulait plus. Alors bien sûr, on va dire il pouvait pas. Mais je pense que quand on en a vraiment envie, on y va. Sinon, il y a des gens à 5% ou à 2% qui y vont quand même. Ils savent qu'ils vont tout perdre. Mais ils y vont quand même.
Vous pensez à Anne Hidalgo, peut-être?
Why not?
Bon, merci en tout cas, Ludovic.
Merci, Pascal.
Merci vraiment, c'était un plaisir. Monsieur Olivier.
Oui, Pascal, allez.
On va parler d'Histoire de France. Je sais que c'est un chapitre qui vous intéresse particulièrement.
Ah oui, qui me touche particulièrement, bien sûr.
Il est très, très
les réseaux sociaux d'abord.
Ouais, mais vous avez travaillé là.
Ah, mais j'ai travaillé toute la nuit, Pascal, pour cette émission. J'en ai cauchemardé aussi. Allez.
Formidable.
Sur nos réseaux, pour Antoine, Brigitte Macron reste à sa place de première dame et c'est très bien comme ça. Éric nous écrit, elle a fait de la langue de bois ce matin. Un peu plus de transparence aurait fait du bien. Et on conclut avec Yves, elle permet à Emmanuel Macron d'arrondir son image. C'est une performance.
Il est 13h35. On va marquer une pause peut-être avant de parler de cette histoire. On va être avec Dimitri Casali tout à l'heure. Cette histoire de France. C'est vrai que souvent on a le sentiment que les jeunes générations sont peut-être moins cultivées sur le plan historique que ne l'étaient les anciennes. Ce qu'on appelait la frise. Souvenez la frise, c'était de pouvoir placer chronologiquement les rois, les régimes et les événements. Eh bien, il semble qu'aujourd'hui, ce soit un peu compliqué que certains mettent François Ier après Napoléon. Ce qui n'est pas convenable. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Vous entendez entendez quelques notes de musique de cet opéra rock, l'histoire de France de Dimitri Casali, et vous entendez manifestement une chanson consacrée à Marie-Antoinette, et ça tombe bien si j'ose dire, parce que demain à 13h30, de 13h30 à 14h30, dans l'émission de Laurent Deutsch Entrée dans l'Histoire, il évoquera Marie-Antoinette. Bonjour Dimitri Casali.
Bonjour Pascal.
C'est une héroïne maudite de l'histoire de France, Marie-Antoinette, mais qui est réhabilitée, je trouve, depuis une vingtaine d'années peut-être.
Tout à fait. En fait, elle est présente dans cet opéra rock parce qu'elle incarne, pour moi, la première femme moderne de l'histoire de France. Dans sa volonté de refuser l'étiquette royale, de se révolter, c'est une grande, une éternelle rebelle, comme je dis dans la chanson. Et en fait, c'est l'apparition du féminisme moderne.
En tout cas, on va parler histoire précisément avec les auditeurs, leur lien à l'histoire, parce que il y a quand même une permanence, c'est que les émissions à la télévision historique marchent bien, les émissions à la radio marchent bien, les Français paraissent passionnés d'histoire, et en même temps, les jeunes générations paraissent plus en difficulté, notamment sur l'aspect dans l'aspect chronologique. Bonjour Monique.
Bonjour Pascal, alors bonne année.
Merci Monique.
Pour vous, pour vos filles, je crois que vous en avez 4.
Tout à fait.
Voilà, donc j'ai reçu les chocolats, merci.
Ah, les chocolats Gève de Bruges.
Ouais, et puis je suis en train d'en manger en même temps.
Ah bon?
Oui.
Ah, ça c'est pas gentil, vous pourriez nous donner l'eau à la bouche et nous on n'en mange pas.
Ben oui.
Bon,
mais alors je vais vous dire... Ah ouais, ils sont vachement bons. Hein.
Bon, ça va.
Et je vais vous dire, c'est pas aujourd'hui qu'il fallait faire votre émission sur l'histoire, c'est vendredi prochain.
Pourquoi que... Ah, c'est le 21
janvier.
Parce
que vendredi prochain, c'est le 21 janvier, c'est la mort de Louis XVI.
C'est vrai, vous savez que j'étais dans... Alors, ça va vous faire sourire, moi j'étais dans une école à Nantes où à peu près une personne sur trois arrivait avec une cravate noire le 21 janvier.
Ah
donc,
bon
oui, parce qu'il y avait quelques aristocrates, manifestement, quelques aristocrates nostalgiques, et le 21 janvier était jour de deuil pour eux.
Et en plus, c'est l'anniversaire de mon beau-frère, alors je risque pas d'oublier.
Ah bah, écoutez, tout va bien. Bon, pourquoi vous dites que les jeunes ne savent rien? Parce que ça, c'est un
alors,
cliché
moi, vais,
parfois un peu éculé
dire.
Qu'on a. Les jeunes ne savent rien.
L'été dernier, on était à table, donc il y avait mon petit-neveu. Après, bon, on a eu des gamines qui sont venues avec leurs parents. Elles ne savent pas que 1515, c'est Marignan. Moi,
oui,
à
16
ans,
ça,
je savais que Marignan était... Alors, oui. Qu'ils ne sachent pas que 415, c'est Azincourt, ça, je veux bien. Mais 1515, Marignan...
Mais vous sauriez dire précisément ce qu'est la bataille de Marignan?
Oui, c'est la bataille contre les Suisses.
Et c'est où, Marignan?
En Italie.
Ah, bah bravo, Monique, bravo. Non mais c'est vrai que là vous avez raison.
J'ai beaucoup d'admiration et j'ai beaucoup d'admiration pour Napoléon. Tout le monde le critique, mais nous vivons aujourd'hui, en 2022, sur tout ce qu'il a fait, la Banque de France, les préfets, les lycées, les universités. Enfin bon, j'en passais des meilleurs, mais c'est impressionnant. Ils savent même pas qu'il a été marié à Joséphine, puis après à Marie-Louise qui était une Habsbourg. Enfin non, mais c'est fou.
Bon, hein. Vous aimez l'histoire, Monique?
Ah, moi j'adore, j'avais toujours mon premier prix à l'histoire. Oui.
Et vous lisez aujourd'hui ou des romans historiques ou des essais historiques?
Ben là je lis pas beaucoup depuis qu'il y a le Covid.
Ben c'est curieux, on pourrait imaginer que ce soit le contraire.
Ben non, parce que j'ai du mal à me concentrer.
Et autrement, quels sont les personnages historiques que vous appréciez?
Déjà Napoléon.
Oui.
Parce qu'il a quand même fait beaucoup de choses. Il a un an de différence avec mon cher Beethoven, puisqu'il est né le 15 août 1769.
Napoléon, ouais. C'est 1769.
Et Beethoven en 1770, le 16 décembre.
Vous voyez là, par exemple, vous parlez de Beethoven, je pense aux jeunes générations. Je précise que Beethoven n'est pas qu'un chien, par exemple.
Quand le film est sorti, j'étais super contente. Ouais. Mais quand j'ai vu que c'était un klepto, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas
alors,
possible.
Napoléon, est-ce que vous avez peut-être un personnage féminin historique que vous avez, que vous aimez?
Un personnage féminin? Je sais pas. Que j'aime? Je sais pas.
Oui.
Ben Joséphine, la pauvre.
Joséphine, d'accord. Qui est un personnage de second plan, quand même. C'est pas quelqu'un qui a été aux commandes, mais en même temps, il n'y a pas de reine de France. Hein. Il n'y en a pas. Je parle sous l'autorité de Dimitri. La dernière, la présidentielle arrive, Dimitri Casali. La dernière fois qu'une femme a été chef d'État, c'est donc une régente. Donc c'est Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV.
La mère de Louis XIV.
Donc depuis, aucune femme n'a été chef d'État.
Oui, absolument.
Bah, elle n'était pas vraiment chef d'État.
La dernière reine officielle, c'est Marie-Amélie, la femme de Louis-Philippe.
Oui.
Voilà.
Oui, mais elle ne régnait pas. Voilà, on disait reine de France, mais elle ne régnait pas. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot chef d'État.
Non, il n'y a pas de chef
Anne
d'État.
D'Autriche a été chef d'État.
Absolument.
On considère qu'elle a été.
Louis XIV. Bon. Et c'est ainsi, c'était une grande reine, c'est elle qui a formé. De toute façon, Louis XIV, je le dis, tout ce que j'ai fait de bien, je le dois à ma mère. Ça, c'est sûr.
Ah, on en est tous là, bien évidemment. Sérieusement, c'est vous dire quand même l'aspect historique, pour le coup. Si Valérie Pécresse ou Marine Le Pen étaient élues, ça serait tout à fait étonnant, puisque la loi Salic existe en France depuis...
Depuis Clovis.
Et donc, elle a interdit... aux femmes de régner.
De régner, ouais.
Merci beaucoup, Monique. C'était uniquement les garçons qui avaient le pouvoir en ces temps-là, ce qui n'était pas le vrai partout, d'ailleurs. En Angleterre, évidemment, ce n'était pas le cas. Merci beaucoup, Monique.
Mais je vous en prie.
Est-ce que nous marquons une nouvelle pause, monsieur Damien ?
Oui, monsieur Pascal.
Et puis après, on parlera évidemment de cet opéra rock avec Dimitri Casali. Et d'une manière plus large, on parlera de l'histoire de France qui passionne. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Une des chansons de Histo Rock, qui est un concept éducatif unique. On est avec celui qui a écrit, qui est à la fois historien et musicien, Dimitri Casali. C'est l'histoire de France qui fait revivre et dépoussière notre histoire. En 17 tableaux, de la naissance des cathédrales au général de Gaulle, avec du rock, du pop, du rap, du classique, des sons et des lumières. Et la première est le mercredi 2 février 2022 à 18h30. Et c'est à l'Alhambra. Là, c'est une chanson sur Henri IV ?
Henri IV ? Qui, il faut le savoir, est à l'origine des prémices de la laïcité à la française. Parce que ce qui est important dans l'opéra rock historique, c'est de présenter les deux héritages français, à la fois monarchique et chrétien, qui est indubitable, qu'il ne faut jamais oublier. Voilà, ce sont les rois de France qui ont fondé la France, qui ont créé l'État, mais aussi laïque et républicain. Et quand on sait qu'en fait, la laïcité à la française, cette spécificité mondiale unique en France, nous vient, en fait, encore une fois, des rois de France par l'entremise d'Henri IV et l'édit de Nantes.
Et c'est vrai que... Bah alors, Henri IV était donc au départ protestant, et puis il s'est converti. C'est le mot célèbre, Paris vaut bien une messe, c'est cela.
Oui, c'est ce que je mets en exergue dans la chanson, c'est qu'il a changé de religion 7 fois.
Ah bon?
Oui, oui. Au gré des circonstances, parce que sinon il aurait été exécuté et trucidé plusieurs fois.
Alors on parle d'histoire, bien sûr, avec les auditeurs, et peut-être vous interrogeront-ils. Nous sommes avec Laurent. Bonjour Laurent, vous êtes artisan en Eure-et-Loire.
Oui, bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, tous mes voeux.
Bonjour, est-ce que vous aimez l'histoire de France ?
Ah ben je travaille dedans, restaure des objets anciens. Je vous avais proposé de vous faire votre épée d'académicien.
Oui,
oui.
Vous allez attendre longtemps.
Ah ben vous m'aviez dit que je n'ai pas d'amis, mais je vous avais répondu que vous pouviez vous faire coopter.
Est-ce qu'il y a une période que vous préférez dans l'histoire de France ?
Moi, je fais toute période. Je fais toute période, mais je suis obligé de par mon métier, de connaître les techniques de l'époque. Une pièce Louis XV ne se démonte pas comme une pièce Premier Empire pour la restaurer. Les méthodes n'étaient pas les mêmes. Donc, si je ne connais pas les tenants et aboutissants et la géopolitique de l'époque et les moyens qui étaient mis en œuvre, je suis dans l'incapacité de pouvoir réparer. Mais moi, j'ai élevé 3 enfants d'un premier jet et 3 autres enfants d'un second jet à 10 ans d'écart. Mon dernier, on a eu l'occasion d'en parler à 15 années, et je constate le déclin. Et le reproche que je ferais, c'est qu'on n'enseigne plus de chronologie logique. C'est-à-dire qu'on va étudier une époque, on repart après en arrière, on revient en avant. Donc comment voulez-vous vous y retrouver ?
Mais on me dit que c'était vrai ça il y a 5 ans ou 10 ans et que les choses ont changé, qu'on est revenu à la chronologie.
C'est revenu. Et c'est pas un drame. Parce que comment voulez-vous suivre ? Comment voulez-vous comprendre ? Pour monsieur Boubouk, vous parliez de Lady de Nantes, c'est pas une dame qui habitait Nantes.
Il va Lady de Nantes.
Parce que je la cherchais déjà, là, non, du côté de Nantes, je regardais dans le bottin.
C'est quelle année, Lady de Nantes, Dimitri Casali?
1598.
Et on rappelle ce qu'est l'édit de Nantes, parce que les gens ne savent pas ce que c'est l'édit de Nantes.
C'est un édit permettant aux catholiques et aux protestants de vivre ensemble. Hein. C'est pour la première édit, le premier édit de tolérance et de liberté de culte en Europe, et je le dis dans la chanson, peut-être même dans le monde. C'est ça, il faut être fier de notre histoire de France. Oui. On ne se rend pas compte de l'histoire qu'on a. En 1598, c'est la première fois qu'il y avait une liberté de culte et de tolérance dans tout un État, dans tout un royaume, et c'est en France que c'est apparu.
Et cet édit sera révoqué par Louis XIV. En quelle année ?
1685.
Plutôt dans la dernière partie de son règne, d'ailleurs.
Ah oui,
puisque...
à cause de Madame de Maintenon, on le dit. Hein.
Bien sûr, qui est, puisque Louis XIV, c'est 1643.
Bravo, 1715.
Voilà, 1715. Et c'est le fils de Louis XIII. Louis XIII, c'est le fils de Henri IV, nous sommes d'accord. Et voilà, cette période effectivement de tolérance, cette parenthèse se referme avec Madame de Maintenon. Est-ce qu'il y a des personnages historiques, Pierre-Antoine, qui sont parmi vos favoris dans l'histoire de France ?
Oui, bonjour Pascal. Moi j'aime beaucoup Napoléon.
Voilà. Je dis bonjour à Pierre-Antoine qui effectivement est étudiant. Pourquoi vous l'aimez ?
Pour moi, c'est vraiment celui qui... Pour moi, c'est le plus grand héros français. C'est celui qui représente le mieux. C'est un peu la synthèse de toutes les histoires de France. Il s'est passé énormément de choses et c'est lui qui a conquis toute l'Europe, qui a eu le plus grand nombre de victoires militaires. Il a influencé énormément de domaines, que ce soit au niveau culturel, diplomatique, juridique. En fait, il a laissé sa marque partout. Franchement, pour moi, c'est celui que...
Vous n'êtes pas sensible, par exemple, on a célébré tous les bicentenaires récemment, vous n'êtes pas sensible aux attaques qui sont parfois faites contre Napoléon, c'est-à-dire qu'il a laissé la France quand même dans un état pire que lorsqu'il l'avait prise, on le traite parfois d'esclavagiste, il a sur les mains le sang de milliers de morts français, vous n'êtes pas sensible à tout cela?
Alors, évidemment, on est sensible parce que quand on aime ces grandes figures-là, on est aussi sensible autant à leurs qualités qu'à leurs défauts. Après, ce qui est assez marrant, c'est que justement, vous en parliez tout à l'heure, l'histoire de Napoléon, elle n'est pas enseignée, selon moi, de la bonne manière dans les écoles. Par exemple, il a effectivement encadré juridiquement l'esclavage, mais il ne l'a pas rétabli sur le territoire national. Ce qui est assez marrant, c'est que pourtant, mon petit frère, qui lui est en sixième, on lui a appris l'année dernière, quand il était en CM2, que Napoléon avait rétabli l'esclavage, etc. En fait, je trouve que par l'éducation nationale, on enseigne l'histoire d'une manière qui, pour moi, n'est pas spécialement la bonne. Et surtout qu'en plus, vous voyez, moi, je suis en droit, et quand on voit toutes les influences de Napoléon au niveau juridique...
Ah, ça, c'est sûr qu'elles sont réelles. C'est vrai, Dimitri Casali, que la difficulté avec l'histoire, c'est de prendre des lunettes de 2022 pour juger, en l'occurrence, le début du 19e siècle.
Vous avez tout résumé, c'est le grand problème. Cette histoire d'esclavage rétabli par Napoléon en 1802, quand on replace tout de suite dans le contexte de l'époque, 1802, qu'est-ce qui se passait à l'échelle planétaire ? La planète entière pratiquait l'esclavage. Donc ça permet d'éclairer pourquoi, effectivement, Napoléon a pris cette malheureuse décision, uniquement... point de vue économique, bien sûr, il faut quand même le redire. Il n'y avait aucun racisme. Napoléon n'était absolument pas raciste, ça je le redis et je le redirai toujours. Donc voilà, il faut...
Au critère d'aujourd'hui, il l'est, forcément, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, prendre les lunettes de 2022, c'est pour ça que c'est très compliqué, notamment pour les wokistes aujourd'hui et ceux qui veulent déconstruire notre histoire et qui se servent effectivement de ces lunettes d'aujourd'hui.
Il y a un très bel exemple aussi. Savez-vous que Louis XIV a accepté de devenir le parrain d'un noir ? Il était le parrain d'un prince africain. Pourquoi a-t-il accepté ? Parce que l'Africain en question était prince. C'était pas une question de couleur de peau. Il n'était absolument pas raciste. C'était avant tout cette histoire de barrière sociale, de caste, une société de classe sociale. Et il a accepté parce que cet Africain était prince, tout simplement.
On va continuer de parler d'histoire, de rock et de musique. Mais Jean-Alphonse Richard est avec nous.
Salut Pascal.
Bonjour Jean-Alphonse.
Alors l'heure du crime aujourd'hui, vous parlez de roi, de reine.
Oui.
Je vais vous parler d'une princesse, tout simplement, ça tombe bien. La plus longue, la plus chère, la plus détaillée, la plus commentée et sans doute la plus contestée des enquêtes policières. Lady Di, la mort de Lady Di dans le tunnel de l'Alma, c'était le 31 août 1997. Alors vous allez me dire, c'est pas un crime. Certes, les justices françaises et anglaises ont conclu qu'il s'agissait d'un accident. Mais c'est une enquête criminelle qui a bien été ouverte, et ce, pendant des années. Eh bien, on va rentrer dans les coulisses aujourd'hui de cette enquête criminelle, parce qu'il y a plein de choses qu'on a oubliées, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. C'est absolument spectaculaire.
Voilà. Et il y a quelque chose qu'on n'a jamais retrouvé, c'est cette fameuse
Fiatuno.
Est-ce qu'elle a existé, cette
Elle a
Fiatuno.
Existé, c'est une certitude.
Mais comment on sait qu'elle a existé si
parce
on a...
Parce qu'il y a les traces de cette Fiat Uno sur la Mercedes, traces récentes sur la Mercedes juste avant le crash de la fameuse voiture qui transportait la princesse. Et puis, il y a des morceaux de clignotants qui ont également été retrouvés dans le tunnel de l'Alma. On sait que cette voiture existe, était quelque part, on ne l'a jamais retrouvée. Et pourtant, il y a eu des mois et des mois de recherche.
Et la princesse Diana, lorsqu'on a ouvert la voiture, elle était quasiment pas blessée.
Elle a parlé encore un petit peu. Elle a dit « Oh mon Dieu » à deux reprises.
Son visage était intact.
Une seule griffure.
Parce que dans ces cas-là, quand on passe de 100 ou 120 km/h à zéro, à ce moment-là, c'est toutes
les organes.
Les organes qui avancent d'une certaine manière et qui fait que tu meurs immédiatement.
Et en l'absence de ceinture de sécurité. Avec la ceinture de sécurité, c'est un peu triste de le dire, mais sans doute Diana serait encore là aujourd'hui.
Il est 13h58, à tout de suite.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
Il est 14h. Je pense qu'il va y avoir des informations tennis parce que M. Georges Rau est dans ce studio, le Flash avec Agnès Bonfillon.
Oui, on va parler tennis dans un instant, juste le temps quand même de vous dire qu'il y a un nouveau refus de mise en liberté de Cédric Jubilard. Ses avocats, vous le savez, avaient formulé une troisième demande. La cour d'appel de Toulouse vient donc de rendre sa décision. Le mari de Delphine Jubilard, disparu depuis plus d'un an maintenant, reste incarcéré. Les autorités australiennes proposent de placer une nouvelle fois Novak Djokovic en centre de rétention puisque son visa a été annulé. Prochaine étape maintenant, dans quelques heures, Nicolas Georgerot, avec de nouveaux rendez-vous.
Oui, nouvelle audience ce soir, 22h, heure française. Il sera 8h à Melbourne. Djokovic et ses avocats vont rencontrer les officiels de l'immigration pour exposer leurs arguments. C'est à l'issue de cet entretien que les autorités australiennes ont prévenu. Le numéro 1 mondial retournera en rétention administrative jusqu'à la décision finale dans ce dossier qui devrait intervenir dimanche. Qui statuera en dernier ? Il y a encore un flou. Le juge Kelly de l'État de Victoria, qui a déjà rendu une décision dans cette affaire, vient de se dessaisir. C'est la Cour fédérale australienne qui devrait s'emparer de l'épineuse question. Et autre mauvaise nouvelle pour Djokovic, le tournoi, l'Open d'Australie, vient de l'annoncer il y a quelques instants que s'il serbe disputait bien l'épreuve, il entrerait en lice dès lundi et non pas mardi. Le temps est compté.
Merci beaucoup Nicolas Georgerot. Pour faire face à l'inflation, le gouvernement double les taux. Celui du livret A passera à 1% en février, annonce faite par Bruno Le Maire à la mi-journée. Le taux du livret d'épargne populaire passera lui de 1 à 2,2%. En Grande-Bretagne, les fêtes au 10 Downing Street provoquent toujours un énorme scandale en Outre-Manche. Non seulement elles ont eu lieu en plein confinement, mais aussi en plein deuil national, puisque l'une d'entre elles s'est déroulée à la veille des funérailles du prince Philippe. Les services du Premier ministre viennent de s'excuser officiellement auprès de la reine Elisabeth II. Les courses, résultat du quintet, il fallait jouer le 14, le 11, le 8, le 9 et le 16. Le 14, le 11, le 8, le 9 et le 16. Il est pratiquement 14h03 sur RTL. La suite des auditeurs ont la parole. Et des cours d'histoire avec vous.
Vous êtes bien en histoire, vous êtes fort,
j'aime
vous
beaucoup,
aimez.
J'aime beaucoup.
A priori, on aime l'histoire en France. Il est 14h03.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Alors justement, on va être avec Clément, qui est un jeune prof d'histoire de 25 ans. Bonjour Clément.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Comment est-ce qu'on enseigne aujourd'hui l'histoire ? Parce que ça fait combien d'années que vous l'enseignez ?
Depuis 2018.
Donc c'est vraiment tout récent.
intéressant, effectivement. Bon. Mais alors, si je n'ai pas l'expérience de la profession, j'adore collectionner les manuels scolaires. Et j'ai des manuels scolaires qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, qui ont 100 ans. J'en ai même un qui date de 1880. Et c'est là qu'on voit que l'histoire de France n'est pas du tout apprise de la même façon aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce que 30 ou 50 ans. Je vous donne l'exemple. Un manuel scolaire d'il y a 100 ans, vous aviez sur chaque page 5 dates. À chaque date était associé le résumé de l'événement et on avait comme ça quelque chose qui était très chronologique, alors qu'aujourd'hui en réalité on a des doubles pages thématiques sur tel et tel sujet ou tel et tel événement, et si vous voulez c'est davantage la relation entre les événements qui est recherchée que la succession chronologique, ce qui fait qu'on a des élèves qui maîtrisent de moins en moins bien les dates et c'est dommage, mais qui sont malgré tout capables de saisir, on va dire, les relations entre les événements. C'est vraiment une façon différente d'enseigner.
Vous enseignez en quelle classe ?
Cette année, j'ai des élèves de première, seconde et terminale.
Alors ça m'intéresse, première, seconde, terminale. Par exemple, on va prendre les élèves de seconde. Qu'est-ce que vous avez fait cette année en seconde ?
Alors, vous choisissez très bien votre exemple parce que le programme de seconde est celui qui est le plus éloigné de ce qu'on peut imaginer en cours chronologique. C'est-à-dire que on va avoir un premier thème qui va aborder l'Antiquité sur le terme de la citoyenneté avec Grèce, la Grèce d'Athènes et Rome. Ensuite, un second thème sur le Moyen-Âge et on termine l'année, si vous voulez, avec la période pré-révolutionnaire. Donc on couvre en l'espace d'un an plus de 2000 ans d'histoire européenne.
Mais entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, le jeune lycéen, on ne lui explique pas les transitions ?
Eh ben, c'est-à-dire que, pour être tout à fait honnête, entre, on va dire, la christianisation de l'Empire romain avec Constantin et l'époque de confrontation entre l'Empire byzantin, l'islam, etc., au Xe siècle, effectivement, il y a une ellipse de 6 siècles qui est faite.
Est-ce que c'est moi je pensais tout à l'heure que la chronologie était revenue, manifestement, c'est pas tout à fait vrai.
Alors, en seconde non, en revanche, le programme de première, lui, commence en 1789 et termine en 1918. Donc en l'espace d'un an, alors qu'on traitait 2000 ans d'histoire européenne en seconde, là on traite, on va dire, le grand 19e siècle. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus chronologique. Donc c'est vrai que d'une classe à l'autre, c'est deux façons de travailler radicalement différentes.
Oui, mais moi, il y a des trous dans ce que vous me dites, parce qu'en seconde, on fait donc Antiquité, m'avez-vous dit. Oui. Et ensuite, qu'est-ce que vous m'avez dit après l'Antiquité ? Moyen-Âge, bon.
Voilà, le 10e siècle, oui. Après on a découverte de l'Amérique, époque des Lumières, et ça se termine.
Ah oui, quand même époque des Lumières, on essaye de... Oui, d'accord, donc oui. On a quand même couvert la période du 17e siècle, qui est importante, et du 18e siècle. Bon, je pose la question à M. Casali, est-ce que, selon vous, cette méthode, puisque vous avez enseigné vous-même, vous avez enseigné combien de temps ?
10 ans.
Bon, est-ce que vous trouvez que c'est la bonne méthode qui est faite aujourd'hui ?
Non, absolument pas. Bah justement, il y a un léger mieux, comme on vient de le dire, avec la réforme Blanquer du programme de première, où la chronologie a été rétablie. On a même vu réapparaître Napoléon III au programme, qui avait été disparu pendant plus de 50 ans. Mais au collège, c'est toujours les programmes de Najat Vallaud-Belkacem qui sont appliqués, et c'est absolument catastrophique.
C'est-à-dire, hein, au niveau.
C'est-à-dire qu'il y a très peu de dates, il n'y a plus du tout de dates.
Mais pourquoi M. Blanquer, en 5 ans, n'a-t-il pas changé les choses ?
J'ai posé la question, justement, c'est prévu que le collège, mais là, visiblement, il a du mal.
Mais là encore, pourquoi on avait une instruction publique qui était remarquable jusque dans les années 70 en France. On avait des élèves qui sortaient de l'école, qui savaient lire, écrire, compter et qui connaissaient l'histoire. Pourquoi cette volonté d'avoir changé les choses ?
Eh bien, c'est le naufrage des pédagogistes, comme on les a appelés, hein, tous ces conseillers de Lionel Jospin qui sont arrivés au pouvoir en 1989 et qui ont voulu replacer l'élève au centre des savoirs. C'est à l'élève, à lui-même, de pratiquer ses connaissances. Il n'a plus besoin de cours magistraux. Et effectivement, en histoire, ça a donné la disparition totale, je dis bien, de la chronologie. A été remplacée par une histoire thématique, des grands thèmes compassionnels et non plus de chronologique. Bon. Et ça, c'est un vrai naufrage.
Clément, vous avez 25 ans, vous êtes quand même l'exemple qu'on peut aimer l'histoire et être prof, puisque j'imagine, après le bac, vous avez fait quelles études ?
J'ai commencé, je fais une fac d'histoire tout classiquement, une licence d'histoire et ensuite un master en sciences de l'éducation, enfin en métier de l'éducation pour préparer le concours, le CAPES pour devenir prof.
Et vous avez eu le CAPES, Clément ?
Tout à fait, oui, bien sûr.
Donc aujourd'hui, vous êtes vous destiné à rester le plus longtemps possible dans l'éducation nationale ?
C'est ça.
Et vous allez peut-être, quand on est historien, généralement, on écrit parfois des livres. Est-ce qu'il y a une période de l'histoire de France qui vous intéresse plus qu'une autre ?
Alors là, je vais parler non seulement pour moi et puis aussi pour un collègue avec qui j'ai partagé de bons moments l'an dernier, avec qui on partage la même passion pour le Premier Empire. Lui, il la vit de façon extrêmement concrète. D'ailleurs, s'il nous écoute, je le salue, il se reconnaîtra. Voilà, nous, notre sujet, c'est le Premier Empire. Lui, il est parti cet été sur les routes de la route Napoléon à pied. Et en 18 jours, il a fait 420 kilomètres de Golfe-Juan jusqu'à Grenoble en suivant les tracés historiques. Oui, l'histoire, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Ça peut être la généalogie. Pour certains, ça va être collectionner des timbres, collectionner des pièces de monnaie. C'est tellement de choses. Oui, c'est sûr.
Restez avec nous, Clément, parce que je vais vous demander qu'y a-t-il encore à découvrir sur Marie-Antoinette ou sur Napoléon. Je vois qu'il sort des livres quasiment quotidiennement sur Napoléon, mais qu'est-ce qu'on peut découvrir aujourd'hui encore sur Napoléon, Monsieur Boubouk?
Oui, Pascal, je suis ici.
Quel est votre héros préféré de l'histoire de France?
Écoutez, Pascal, mon héros préféré de l'histoire de France, il me semble que c'est Charles de Gaulle, je pense.
Charles de Gaulle, voilà. C'est une bonne réponse.
C'est une bonne réponse. Je voulais demander à Monsieur Casali s'il pouvait me donner des cours d'histoire, peut-être, au vu des lacunes que j'ai, Pascal.
Mais vous pouvez.
En chanson, avec plaisir.
En chanson, mais vous prenez un bouquin. Enfin, c'est comme l'orthographe, c'est bête comme chou. Vous prenez un livre et puis vous retracez l'histoire de France.
Ah oui. Bon, je vous ai énervé, là, pour le coup.
Non, mais c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Disons qu'à partir. XVIe siècle, vous devez à peu près tout savoir. Avant, oui. On vous pardonnera d'être parfois noyé dans le Moyen-Âge, de ne pas savoir tout placer chronologiquement.
Il va falloir me pardonner plus largement
Mais
que ça, quand même.
À partir de François 1er, vous devez avoir une vision nette et précise de la chronologie, me semble-t-il, de l'histoire de France.
Je suis bien d'accord. Les réseaux sociaux ?
Oui.
Allez, on y va. Pour Aline, les enfants ne sont pas intéressés par l'histoire telle qu'elle est enseignée à l'école.
Stéphanie.
Ah, vous chantez pendant le point maintenant.
Mais oui, parce que c'est Aline.
Ah, très Aline, bien. C'est un bon motif. Allez. Stéphanie nous écrit, je ne suis pas si jeune, je ne connais pas l'histoire et je n'ai pas honte. On finit avec Antoine, l'apprentissage.
Ça veut dire quoi cette phrase ? Je ne suis pas si jeune.
Oui, elle n'est pas jeune, elle ne connaît pas l'histoire et pourtant elle n'a pas honte.
Oui, bien sûr, mais je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Mais bon.
Non, mais écoutez, moi non plus. On finit avec Antoine, l'apprentissage dépend des parents, sauf que les parents accompagnent de moins en moins leurs enfants, donc tout ça est logique.
Oui, alors c'est les parents, mais c'est aussi une ambiance. C'est-à-dire que quand on était enfant, il y a trois chaînes, on écoutait Alain Decaux, il y avait la caméra Explore le temps, il y avait beaucoup d'émissions historiques et on les regardait. Bon, il y avait des films, il y avait par exemple Guitry a fait beaucoup de films sur l'histoire, si Versailles, mais c'était Comté, tout
magnifique.
Ça, on regardait ça quand on est...
Magnifique.
Voilà, c'était une manière... Alors c'est le roman national, c'est un peu, évidemment, c'est du roman, mais ça nous intéressait quand même. La pause, à tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Écoutez une des 17 chansons, c'est bien ça ?
Exactement.
17 chansons, 17 tableaux de la naissance des cathédrales au général de Gaulle. Je le disais tout à l'heure, Dimitri Casali est avec nous. Vous êtes historien et musicien, c'est-à-dire que vous avez écrit les paroles. Vous avez écrit la musique ?
Avec mon groupe, la musique, on l'a co-écrite avec Pedro Camarasa, le chanteur.
Et la première est le mercredi 2 février 2022 à l'Alhambra. Ça sera tous les soirs ?
Ah non, c'est un seul soir, c'est pour ça il faut venir nombreux. L'Alhambra est grande, 600 places assises, dans le respect des mesures sanitaires et passe vaccinale à l'entrée. Mais il faut venir nombreux et nombreuses.
Et vous cherchez un producteur peut-être pour jouer davantage.
Exactement, on vient juste de finir cet opéra rock sur l'histoire de France il y a même pas 3 mois et il est tout neuf, tout beau. Et
ça a été combien de temps de travail ?
3 ans.
Clément, qui était avec nous, et je le remercie, vous êtes professeur d'histoire. Est-ce que vous sentez quand même que les jeunes sont intéressés par votre matière ?
Oui, mais C'est bon, c'est assez irrégulier, naturellement. Moi, je pense que si on devait faire comme monsieur qui est sur le plateau avec vous, revoir un petit peu dans l'histoire de l'éducation ces soucis-là, on se retrouve aujourd'hui même en classe de seconde avec des élèves qui n'ont peut-être pas forcément tous leur place. C'est-à-dire que la filière générale est devenue une sorte de filière par défaut. C'est-à-dire que vous avez des élèves qui sont en difficulté depuis la cinquième et qui, parce qu'ils n'ont pas des dossiers assez solides, n'arrivent pas à être pris dans les filières professionnelles qui sont pour certaines assez sélectives et se retrouvent dans la filière générale qui est censée être la plus exigeante avec un niveau qui n'est pas le bon. Et c'est un vrai grand écart qu'il faut faire quand on est enseignant dans ces classes-là.
Vous êtes dans quelle région en ce moment ?
Je suis en Bourgogne.
Et vous avez donc des élèves de tous niveaux ?
Bien sûr, je pense que la classe de seconde, c'est une classe qui est extrêmement hétérogène. La classe de seconde générale, c'est un grand écart de niveau, de centre d'intérêt. C'est vraiment particulier.
Ben merci Clément de ce témoignage. Nathalie est là. Nathalie, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Qui est assistante maternelle à Grenoble. Vous êtes une passionnée d'histoire ?
Alors moi, l'histoire m'intéresse et en tous les cas, je suis maman donc de deux enfants de 23 et 17. Donc j'ai vu comment ils ont appris l'histoire et comment ils l'appréhendent. Donc comment ils l'apprennent, je suis assez d'accord avec avec votre invité en plateau. Cette façon anachronologique de l'apprendre, ça peut être perturbant selon la sensibilité de l'élève en fait.
Moi, je sais que mon fils, la simplicité, ça ne le dérange pas. La chronologie, bien sûr.
Je vois que mon fils est plus intéressé par effectivement la thématique de l'histoire. Mmh. Et je me rappelle que ma fille, le fait que ce ne soit pas chronologique, était un souci, par exemple.
Mais la thématique, je ne veux pas dire que je ne comprends même pas ce que ça veut dire, mais à partir du moment où tu étudies le règne d'un roi ou d'un régime, tu apprends forcément, tu entres forcément dans les thématiques de ce roi ou de ces régimes, et c'est peut-être comme ça qu'il faut apprendre les choses, me semble-t-il.
Moi, je trouve que la façon dont on leur enseigne l'histoire est très particulière. Après, pour nos enfants, quand ils ont du mal en histoire, etc., on a un rôle, nous, en tant que parents, dans notre vie quotidienne, dans nos vacances, faire des visites de musées, de châteaux, et ça resitue les choses, et ça leur redonne goût, ça redonne de l'intérêt. Là, vous parliez de Napoléon, nous, typiquement, qui habitons Grenoble, je trouve ça intéressant de savoir qu'il y a même des Grenoblois qui ne savent pas toujours pourquoi il y a la statue de Napoléon à Lafray. Mais parce que Napoléon est passé par chez nous.
Monsieur Casali vous répond.
Oui, c'est un grave problème. Ce manque. La chronologie est la grammaire de l'histoire. Et ces pédagogistes qui, à partir de 1989, ont supprimé toute chronologie. Mais pas simplement l'importance des dates. Regardez, la fameuse nuit du 4 août... 1789, l'abolition des privilèges, a été remplacée par août 1789. Le fait qu'il y ait ce 4 août, pour eux, c'était soi-disant perturbant. Non, justement, c'est ça ce qu'on reçoit. La magie de la chronologie en histoire, Ernest Lavis l'avait bien compris, quand lui-même, c'est lui qui a inventé 1515 Marignan, parce qu'il trouvait qu'il y avait une grâce poétique. 1515 Marignan, j'en ai même fait une chanson. C'est une grâce poétique et mémotechnique. C'est-à-dire que non simplement l'importance de la bataille est, somme toute, assez relative, mais surtout pour lui, c'était une manière pour que les élèves puissent dater l'arrivée de la Renaissance italienne en France. Voilà, c'est par ça. C'est comme ça qu'on apprend l'histoire.
Merci Nathalie. Demain, on va célébrer les 400 ans de la naissance de Molière. Et hélas, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose alors que Molière est si présent dans nos sociétés. Molière a créé des archétypes qui sont toujours là. Trissotin, Don Juan et les femmes savantes. Les femmes savantes ont créé, osé le féminisme. Bien évidemment, tout est écrit dans Molière. Et demain, on n'en parlera quasiment pas au plus haut niveau de l'État. C'est dommage. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et alors ça aussi, c'est une formule qui est passée à la postérité, bouter les Anglais hors de France. Elle est de qui cette formule ?
C'est le langage de l'époque. Là d'ailleurs, j'ai repris plusieurs formules, plusieurs extraits musicaux à la chanson finale d'Henri IV. C'est une ritournelle, effectivement, du XVIe siècle, vous voyez, pour qu'on ait... La problématique de l'opéra rock, c'est comment la France est devenue le pays des arts et des lettres. C'est ça qu'on oublie aujourd'hui. Pourquoi la France ? C'est l'universalisme, la laïcité, etc., la République, certes, mais c'est surtout le pays des arts et des lettres. Là, on rejoint Molière.
Oui, mais aussi avec l'influence des rois. Par exemple, Louis XIV a favorisé cela.
Louis XIV n'aurait pas été là. C'est ça, les rois, mais Richelieu avant et tous, mais on le sent très bien, des Saint-Louis. Saint-Louis avec Chrétien de Troyes, avec tous les rois. Ce sont les rois de France qui ont fait la France.
Question impossible, monsieur Boubouk. Quelle était la mère de Saint-Louis ?
La mère de Saint-Louis, Pascal ?
Oui.
Je ne sais pas, je ne l'ai pas connue.
Blanche de Castille.
Ah mais oui, ça
Blanche
me revient.
Blanche de Castille, cher magnifique. Ami. Regardez ce nom magnifique.
Mais je n'aime
Blanche.
Pas étaler ma culture à l'antenne. Voilà.
Mais Blanche de Castille. Pas. Et vous savez qu'il y a beaucoup de lycées, collèges qui sont des lycées Blanche de Castille en France.
Grande dame.
Bien
grande
sûr, dame. Quel joli nom, Blanche de Castille. C'est le débrief. Je vous remercie, monsieur Casali.
Merci
C'était
beaucoup.
Un plaisir, vraiment. Et courez voir le mercredi 2 février 2022, donc à 18h30, à l'Alhambra. Listo Rock.
Merci.
Le
beaucoup.
Débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Brigitte Macron se voit-elle 5 années de plus à l'Elysée ? Souhaite-t-elle qu'Emmanuel Macron se représente ? Elle était l'invitée d'Alba Ventura ce matin sur RTL.
J'apprendrai, je lui ai dit, cette décision. Tu me la donneras en même temps que tu la donneras aux autres. Nous en parlons.
Oui, j'allais dire, mais c'est une décision qui se prend à deux.
Pas celle-là.
Mais il vous demandera votre avis, quand même. Hein.
Je lui ai demandé de ne pas me le demander.
Des paroles que ne comprend pas Véronique.
Quand on est l'épouse d'un homme, ça va impacter sa vie, forcément, sa décision. Donc elle est quand même partie prenante dans la décision. Ou alors c'est un couple qui ne se concerte pas et chacun fait ce qu'il veut. Enfin, ça me semble.
Alors une autre phrase de Brigitte Macron nous a interpellés.
Je suis très pascalienne, rien n'existe que le présent.
Forcément, monsieur Boubouk, se retrouve-t-il dans ses propos ?
Est-ce que vous êtes pascalien ?
Alors, pascalien, aucun rapport avec vous ?
Ah non ?
Ah oui, bon, ce n'était pas la réaction attendue. Vous êtes choqué, monsieur Éric Zemmour ?
Grande déception de ma vie.
Mais oui, je vous comprends. Bon, là, ami, il va falloir se rattraper. On va faire quelques révisions. Et soyons fous, une petite question histoire.
Quel est le lien familial entre Louis XVI, Louis XVIII et Charles X ?
Écoutez, il me semble, Pascal, qu'ils sont tous... Pascal, ils sont tous père et fils. Non ?
Ils sont frères. Ils sont trois frères.
Ah oui, après, bon, j'imagine, pour une partie de la génération Boubouk, la génération TikTok, les trois frères, c'est plutôt... Bon, notre jeunesse est-elle en difficulté avec l'histoire de France ? Monique, dites-nous la vérité.
L'été dernier, on était à Sables, donc il y avait mon petit-neveu. Après, bon, on a eu des gamines qui sont venues avec leurs parents. Elles ne savent pas que 1515, c'est Marignan.
Aïe, c'est vrai que c'est facile de pointer du doigt les plus jeunes. Pascal, posez une question à Monique.
Et c'est où Marignan ?
En Italie.
Ah, bah bravo, j'ai Monique.
Ah, donc pour que les choses soient bien claires, une bonne fois pour toutes. Véronique, une dernière chose à ajouter ?
Et moi, j'ai pas eu mes chocolats parce qu'ils m'ont pas rappelé.
Les chocolats Jeff de Bruges ?
Eh ben ouais, ils m'ont oublié.
Mais attends, Damien, vous savez qui les a mangés ? C'est Damien Béchiot. Parfois, il mange les chocolats des auditeurs.
Oh, quel vicieux ce Damien Béchiot. Bon, ouvrons tout de même une enquête.
Il a passé son week-end tout seul.
On a un responsable, Véronique. Véronique, qui est responsable ? Pourquoi Véronique n'a pas les chocolats ?
Ben je ne sais pas.
Tiens, le je ne sais pas de Benjamin Sportouche a fait des petits bébés. En attendant, Monique nous provoque de son côté.
Donc j'ai reçu les chocolats, merci.
Les chocolats Jeff de Bruges.
Ouais, et puis je suis en train d'en manger en même temps.
Ah bon ?
Eh bien, très bon appétit. Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. On se quitte avec un cours d'histoire sur Louis XIV.
La devise de Louis XIV, c'est mais plus il ne signe pas.
C'est je ne peux pas être comparé à personne. C'est ce que, c'est cela, hein, Dimitri. C'est un peu comme Jean-Alphonse Richard. Oh, ce pourrait être sa devise.
C'est sympa.
Ben, bonjour, écoutez, cher ami.
Bonjour, Pascal. Après ce défilé d'altesse, ben, je vous en propose une. Lady Diana, princesse de Galles. Son accident. Alors, c'est pas un crime.
Non.
Mais c'est une enquête criminelle.
Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr.